France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les industries du numérique font partie des plus gros lobbyistes de Bruxelles, loin devant le secteur pharmaceutique. Comment ce lobbying étend-il son emprise bien au-delà des institutions européennes ? Les géants technologiques concentrent un pouvoir colossal, monopole économique, contrôle des données, influence politique et médiatique qui fragilisent nos démocraties déjà mises à rude épreuve. Nombreux sont ceux qui alertent sur les conflits d'intérêts des experts en IA. Car ce lobbying infiltre aussi le monde académique et façonne les discours publics, notamment par cette rhétorique de la course à l'IA entre peur et enthousiasme et exerce un soft power sur l'ensemble du tissu économique. Par quel mécanisme les big tech étendent-elles leur emprise jusqu'au cœur même de la recherche. Lobbying, l'IA prend la grosse tech. Léa Nguyen Hoang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en mathématiques, créateur de la chaîne YouTube Science for All et spécialiste de l'IA. Marie Garin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse postdoctorale CNRS au Centre Internet et Société. Et nous sommes également en ligne avec Anna Lombert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8 et autrice de La bêtise artificielle publiée en septembre dernier. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci aussi à vous d'être là avec nous au rendez-vous en direct ou en podcast à toute heure. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky. Sur Blue Sky, on poste pour vous de nombreuses ressources pour compléter votre écoute et c'est à retrouver comme tous les jours sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment se caractérise l'influence des lobbies du numérique? Quelle différence avec les lobbies industriels plus anciens, comme le tabac? Et par quels moyens cette industrie influence-t-elle la recherche académique? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on se plonge dans le passé, en arrière, avec l'invention déjà d'un narratif. C'est notre archive du jour et nous sommes en 1966.
L'intelligence, pour nous, c'est, pour nous qui connaissons les machines, qui les comparons à des machines, c'est un très bon programme et beaucoup de mémoire. Les mémoires étant les positions de la connaissance. Plus il y a de programmes, un programme compliqué, plus la mémoire est considérablement étendue et plus la machine est savante. Et il serait vraiment très dommage de poser la question à des machines qui sont des demi-savantes, alors que maintenant on va avoir des machines qui sont gigantesques, énormes, où on peut concentrer la connaissance de milliers d'hommes. La connaissance d'un homme, maintenant, je pense, est un petit peu dépassée. C'est des milliers d'hommes qui ont fait les bombes atomiques, qui ont fait les ordinateurs, qui ont fait la médecine de tous les jours, la chimiothérapie. Et la possibilité d'avoir en permanence un état de la connaissance sur machine apporte quelque chose d'impensable pour l'humanité. Jusqu'ici, l'homme avait inventé des machines qui remplaçaient son geste, ce qu'on appelle la machine-outil. Mais maintenant, nous avons des machines qui permettent à l'homme de se tenir au courant en permanence de ce qu'il recherche. Lorsque vous allez dans une bibliothèque chercher un renseignement, vous prenez un livre. Si vous vous êtes trompé le livre, si le renseignement est sur le livre d'à côté, on n'a pas vu la couleur. Par contre, sur un ordinateur, si vous demandez un renseignement, vous avez non seulement le renseignement que vous cherchez, mais avec les additifs, s'il y en a eu depuis que vous l'avez, vous avez trouvé cette référence, vous avez un état permanent de la connaissance des hommes.
Autrement dit, avant, vous trouviez que la connaissance était statique et maintenant, elle est en mouvement.
Maintenant, elle est en mouvement. Autrefois, on enseignait, et même à Princeton, M. Einstein se promenait dans les couloirs avec ses élèves et il exposait sa pensée qui était mouvante. Je crois qu'avec les machines, on pourrait avoir les connaissances au jour le jour. Et je suis persuadé que dans un délai très proche, une grande découverte n'aura pas lieu en un point quelconque du monde sans qu'immédiatement les ordinateurs qui sont connectés entre eux ne soient au courant instantanément.
Voilà, des monstres apprivoisés, les ordinateurs. Un extrait de l'émission Visa pour l'avenir, diffusée sur le RTF en 1966. Nguyen Hoang, on entend là quelque chose de l'ordre de presque comme quelque chose de magique. Et ça m'a semblé assez contemporain finalement dans le discours.
Oui, moi ça, il y a une partie du discours qui est assez, qui fait beaucoup penser à Wikipédia en fait. Notamment le fait de rassembler beaucoup de la connaissance humaine et d'avoir des milliers de personnes qui contribuent et d'avoir des mises à jour de l'état des connaissances derrière un projet comme Wikipédia, on retrouvait exactement ça, cette espèce de sagesse des foules qui est orchestrée. Et donc c'est quelque chose de très inspirant. Il y a un autre aspect aussi du discours qui m'a un peu plus fait tiquer, c'est de parler de la machine au singulier. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les discours qu'on a autour de l'intelligence artificielle, où parfois on parle de l'algorithme au singulier, comme si c'était une seule entité unique. Et ça obscurcit, à mon sens, non seulement la diversité de ces systèmes, le fait que tous ne sont pas aussi maléfiques les uns que les autres, mais également tous les enjeux de gouvernance qu'il y a derrière ces systèmes.
C'est ça, la machine, ça participe à une sorte d'invisibilisation de ce qui se passe en coulisses, finalement. Votre écoute également, Marie Garin, de cette archive.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Lé. Et notamment, dans ma thèse, je me suis pas mal intéressée à cette notion d'intelligence artificielle et des autres mots qu'on pourrait proposer pour remplacer plutôt cette catégorie-là, qui effectivement, à mon sens, va reproduire un regard social qui est assez éloigné de la réalité. Notamment quand on parle... les mathématiques qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle communément l'apprentissage automatique. Et cette notion d'automation qu'on va retrouver très souvent dans les technologies, il y a des chercheurs qui leur proposent d'opposer plutôt la notion d'hétéromation pour justement mettre en lumière le fait que, en fait, derrière, il y a toujours du travail humain. Et dans le cas de l'intelligence artificielle, on va retrouver ça largement avec tout ce qui va être les annotateurs de données, ce qu'on appelle les travailleurs et travailleuses du clic, qui en plus ont des conditions de travail qui sont absolument désastreuses, où on a une sorte de retour de travail à la tâche, aucune perspective d'évolution, et où on va retrouver des rapports de colonialité. Et tout ça est réellement invisibilisé par cette notion d'automation et par cette notion d'intelligence artificielle.
Ce mot magique, IA. Anna Lombert, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive ?
Écoutez, moi je peux rebondir aussi là-dessus sur ce terme général d'intelligence artificielle que j'ai beaucoup aussi essayé de déconstruire dans mon livre. Bon, j'ai parlé de manière un peu provocatrice de bêtises artificielles, mais c'était surtout pour dire qu'en réalité les dispositifs technologiques ou numériques ne sont pas nécessairement synonymes d'intelligence en réalité. Et dans cette archive qu'on vient d'écouter, c'est vrai qu'il y a une sorte de confusion un peu implicite entre la mise à disposition d'informations et puis le savoir, en fait. Or, le savoir, il a aussi une dimension intrinsèquement critique, en réalité. Et c'est pas parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'informations que vous avez nécessairement du savoir. Et donc, c'est important de garder un petit peu ces distinctions en tête, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a on est en présence d'une quantité souvent massive d'informations, mais ça crée aussi des problèmes de surcharge cognitive. Et puis surtout, cette information, et on en reparlera sans doute par la suite, en fait, il y a des entités, des entreprises, etc., qui vont choisir de la manière dont nous allons recevoir l'information. C'est-à-dire que l'information, elle n'est jamais neutre. La manière dont elle est produite, dont elle est diffusée, dont elle circule, implique toujours des enjeux de pouvoir.
Sur ces enjeux de pouvoir, justement, Lé Nguyen Hoang, là, on parle de l'IA, de ce que ce mot véhicule ou justement ne véhicule pas et cache. Alors finalement, quand on parle de lobby de l'IA, on parle de quoi ? Qu'est-ce que c'est un lobbying scientifique ?
Peut-être que pour commencer, on peut rappeler que derrière l'IA, il y a une industrie, c'est vraiment l'industrie des intelligences artificielles qu'il faut comprendre derrière ce terme. Et donc, il y a des intérêts privés parce que la plupart des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, de ces algorithmes, ces outils numériques là, qu'on utilise au quotidien, derrière ça, il y a des très grosses entreprises. Donc on peut citer Google, Amazon, Facebook et autres.
Les GAFAM,
les fameux. Et en plus de cela, dernièrement, il y a eu un rapprochement entre ces entreprises-là et un pouvoir américain qui est également de plus en plus autoritaire. Donc il y a des enjeux non seulement économiques, mais maintenant également politiques derrière tout ça. Et du coup, la notion de lobbying émerge naturellement puisqu'il y a des intérêts à protéger et que ces entreprises mettent les moyens pour défendre ces intérêts.
Marie-Gain.
Oui, et en sociologie des sciences, il y a un champ de recherche qui s'intéresse précisément à ce qu'on appelle dans le langage courant le lobbying dans la science. Ce champ de recherche qui se pose la question de la production du non-savoir, de la production de l'ignorance, c'est l'agnotologie. Et ce que ça veut dire être un ou une agnotologue, c'est considérer que essayer de comprendre comment, quand et pourquoi nous ne savons pas, eh ben, c'est une question tout aussi importante que de comprendre pourquoi nous savons. En gros, c'est un peu le miroir entre l'épistémologie qui va être l'étude du savoir et l'agnotologie qui va être l'étude du non-savoir ou de l'ignorance. Et donc voilà, ça c'est un champ qui a été, c'est un terme, l'agnotologie, qui a été forgé dans les années 90, notamment par Proctor, et c'est un domaine assez récent dans le sens où le premier ouvrage collectif, donc qui a été dirigé par Proctor et Schiebeling, lui a été sorti en 2008. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se détacher de cette conception de l'ignorance comme juste un endroit où le savoir n'est pas encore venu, mais plutôt comme le résultat d'un processus, d'une construction qui va être historique, sociale, politique, géographique. Et le but va être justement d'essayer d'analyser tout l'ensemble des formes d'ignorance qu'on va trouver dans la science, avec des facteurs qui peuvent être internes ou externes à la science. Il y a de nombreux types d'ignorance, mais celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la production d'ignorance volontaire. Il y a justement tout un pan de l'agnotologie, qui est d'ailleurs celui qui est le plus connu, qui va s'intéresser aux stratégies, notamment des industriels, pour essayer de produire de l'ignorance via ce qu'on appelle la fabrique du doute.
La fabrique du doute, les marchands de doute. On va revenir sur cette notion très importante, parce que vous venez de dire, Léa Nguyen Hoang, en effet, que cette big tech, ces gros acteurs technologiques, ces GAFAM, mettent des gros moyens. Et en effet, on voit que ces industries du numérique sont devenues d'énormes lobbyistes du côté de Bruxelles.
Oui, tout à fait. Donc, c'est les premiers lobbyistes de Bruxelles, comme vous l'avez très bien dit. Et ils ont également infiltré beaucoup d'organes de décision. Donc, je pense notamment, par exemple, à la commission en IA qui a été commandée par le président Macron, où on retrouvait des industriels de Google, de Meta, de Mistral, de Nvidia, si je ne me trompe pas. Enfin, je suis pas sûr exactement de la liste, mais voilà, il y avait beaucoup d'industriels du privé. Et on a aussi banalisé ça également dans le monde de la recherche, où il y a aujourd'hui les principaux événements de la recherche en IA sont ce qu'on appelle des conférences académiques, qui sont aujourd'hui massivement financées et organisées et infiltrées par des industriels du privé, à la fois d'ailleurs américains, mais également d'autres pays, notamment chinois de plus en plus.
Et puis on voit que ces industries, ces entreprises américaines de la tech ont donc renforcé leur lobbying à Bruxelles avec de plus gros budgets, des équipes plus fournies, selon une récente étude menée par deux ONG. Anne Alombert, finalement, quelle différence avec les lobbies industriels plus anciens, le tabac, le sucre, l'armement, quelle différence entre les big tech et big tobacco, par exemple?
Ah bah écoutez, il y a beaucoup de différences. Alors, on peut dans une certaine mesure comparer, je pense, parce que il y a quand même cette logique de justement fabriquer du doute pour retarder les prises de décisions publiques qui ont vocation à, prémunir, en fait, protéger les populations. Mais évidemment, on n'a pas affaire au même type de dépendance, si je puis dire. C'est-à-dire que les produits comme l'alcool ou le tabac, ce sont des produits qui impliquent une dépendance, disons, chimique. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de dépendance chimique, mais enfin, disons que la dépendance est liée à l'ingestion d'un produit. Là, on va avoir des dépendances un peu différentes, puisque ces produits numériques, hein, c'est important de bien distinguer les sciences d'un côté et la recherche scientifique, et puis ensuite les produits ou les services qui sont diffusés dans les sociétés. Et bien souvent, ces produits ou ces services, ils vont avoir vocation aussi à nous rendre dépendants, mais d'une autre manière, en fait. Et on va avoir des sortes de dépendances technologiques qui vont être instaurées avec toutes les technologies persuasives qui sont fondées sur des recherches en captologie. Donc, la captologie, c'est un mélange entre différentes disciplines scientifiques, si je puis dire, donc à la fois la psychologie comportementale, la psychologie cognitive, mais aussi l'algorithmique, l'informatique et puis parfois aussi l'économie. Et l'idée, c'est de développer des fonctionnalités numériques qui vont nous rendre dépendants. Donc, par exemple, le défilement infini, par exemple, les notifications, par exemple, la quantification des vues sur les réseaux qui jouent sur votre besoin de reconnaissance sociale. Donc, en fait, on va s'appuyer sur une connaissance assez précise, finalement, des processus cérébraux, hein, pour stimuler notamment le système dopaminergique. Donc, le fait que quand le cerveau sécrète de la dopamine, on a un sentiment de satisfaction immédiat, donc on a envie de revenir en réalité sur le service numérique en question. Ces technologies captologiques sont aussi à l'œuvre dans le cas des intelligences artificielles génératives. Mais si vous voulez, l'idée, c'est de générer une sorte de dépendance psychique, en fait, au service ou au produit technologique. Et ça, je pense que c'est quand même une question très importante parce que ça implique, disons, de bien distinguer ce qui relève de la recherche scientifique très fondamentale et des stratégies industrielles de marketing, de captation des attentions et des émotions des usagers. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes dépendances qu'à l'époque du tabac ou de l'alcool, mais enfin, ces questions sont présentes également.
En effet, il y a cette analogie avec les produits type drogue-alcool, mais on voit aussi quand même les Nguyen Hong, des stratégies similaires entre Big Tobacco et Big Tech.
Oui, je pense qu'il y a énormément de similarités à la fois dans la manière dont ils ont infiltré le monde de la recherche, essayé de biaiser le discours académique, ils ont essayé de chercher à modifier également le discours politique ou le discours médiatique. Mais pour revenir sur les différences, je soulignerais deux aspects qui
me semblent... Ou les similitudes.
C'est plutôt... oui, je pense qu'il y a deux spécificités qui rendent le monde de la tech encore un peu plus dangereux. Le premier, c'est que les outils du numérique sont contrôlables à distance. C'est-à-dire qu'une fois, même une fois qu'on vous a vendu un produit numérique, une fois que vous avez acheté un abonnement pour un chatbot ou pour une plateforme comme Spotify, il reste possible pour l'entreprise de modifier son produit et y compris celui que vous avez déjà dans la main. Donc il y a un contrôle à distance qui fait que il y a un risque qui est beaucoup plus grand, notamment en cas de situation tendue. On va essayer d'éviter, bien sûr, des situations de guerre, mais dans des situations un peu plus tendues, ça représente un risque beaucoup plus grave. Hein, si on pense aux voitures, pas forcément autonomes, mais contrôlables à distance, c'est particulièrement préoccupant. Et puis, il y a un autre aspect qui, à mon sens, est assez différent, c'est au niveau du contrôle des données compromettantes. C'est-à-dire que quand il y a eu le changement climatique, on sait que les entreprises pétrolières savaient d'une certaine manière avant tout le monde et qu'il y avait des documents internes qui ont fini par fuiter, qui montraient qu'ils étaient bien au courant, bien en avance. Mais d'une certaine manière, c'est juste, c'est parce que la science était un peu en retard, le domaine académique était en retard. Là, dans le cas de ces entreprises privées, on a une situation un peu plus problématique où les données qui sont compromettantes, qui permettraient de montrer que ces entreprises mettent des millions de vies en danger, les démocraties en danger, sont la propriété privée de ces entreprises et qu'elles refusent de les partager pour pouvoir investiguer, pour permettre aux chercheurs d'investiguer.
Voilà, et par rapport aussi justement à ces similarités, en tout cas avec Big Tobacco, j'invite nos auditeurs à se procurer l'article qu'on poste sur Blue Sky, l'article pionnier The Grey Audi Project, publié en 2021. Le titre est une référence au White Coat Project, le projet blouse blanche lancé secrètement par les industriels du tabac pour s'attirer les bonnes grâces des chercheurs dans les années 80. Alors pourquoi, par quelle voie ces industries du numérique ont-elles en effet destructeurs sur nos démocraties? On continue, restez à l'écoute.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on s'interroge sur la place du lobbying de l'IA dans notre société avec les Nguyen Hoang, Marie Garin et Anne Alombert. On vient d'évoquer la manière dont l'IA mobilise les puissances financières et comment les industries du numérique sont bien plus dangereuses que les industries du tabac. Les Nguyen Hoang, on peut aussi dire en effet qu'il y a aussi la fabrique d'un narratif. On voit qu'à la fin des années 2010, l'image des GAFAM a commencé déjà à s'étioler. Il y a un paquet d'affaires qui sont venues ternir leur image. Et on voit donc aussi un lobbying qui est là pour venir tenir main forte à pour essayer de redorer le blason à ces industries-là.
Oui, je pense qu'un des événements assez marquants, c'est en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, ou 21, des documents internes de Google ont été exposés où on voyait que l'entreprise appelait ses chercheurs ouvertement à adopter un ton positif sur l'intelligence artificielle, strike positive tone, comme en anglais. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers la recherche aujourd'hui en IA. C'est que les articles académiques qui célèbrent des avancées spectaculaires des IA ont tendance à être beaucoup plus relayés, beaucoup plus cités, à être beaucoup plus amplifiés. Et c'est un narratif qui, bien entendu, va baisser la garde que l'on peut avoir par rapport à ces outils. On a tendance à associer énormément ces nouvelles technologies à des jeux vidéo, ou en tout cas quelque chose de cool, de sympa. On a des événements comme Givatech où on célèbre vraiment ces technologies. Enfin, j'aime bien appeler ça une stratégie de cool washing. On essaie de rendre ça cool. Et je pense que c'est une vraie menace parce que, à cause de cela, on baisse notre garde vis-à-vis de ces outils.
Marie Guérin.
Et c'était pour revenir sur, vous disiez donc que les stratégies étaient assez similaires et vous reveniez sur ce moment qu'on appelle tech backlash, donc le moment où de nombreuses critiques ont commencé à dégrader l'image des big tech, où en fait le caractère politique de ces entreprises a commencé à être de plus en plus visible, que ce soit les révélations Snowden, le scandale Cambridge Analytica, le projet Maven, par exemple, entre Google et le Pentagone, dans le but d'équiper des drones américains d'intelligence artificielle pour optimiser les frappes. En tout cas, les années 2010 ont été assez riches en critiques. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est bien à ce moment-là qu'on a observé une stratégie très similaire entre les cigarettiers et les grandes entreprises du numérique. C'est-à-dire que, en réaction à ces critiques, c'est la même stratégie qu'on observe, c'est-à-dire le fait d'investir massivement, notamment dans la recherche publique. Aujourd'hui, le financement des big tech de la recherche publique, ça s'élève à une hauteur de 2 à 4 milliards par an, ce qui est quand même des sommes non négligeables, et ce qui mène à des effets bien connus d'orientation des recherches, des effets de cadrage, donc de problématisation de ces questions, on va y revenir, et aussi en termes de priorisation donc des sujets de recherche.
Alors ça, on reviendra évidemment sur les enjeux et comment ça se passe de l'intérieur dans le milieu académique. Je me retourne vers vous, Anna Lombert, parce qu'en effet, là, on voit bien une des premières grandes stratégies de ces oligopoles, redorer un blason terni auprès de l'opinion publique. Ça fait partie, en effet, d'une pure stratégie de lobbying.
Oui, et de marketing, en fait, de manière plus générale. Et c'est vrai que là, le parallèle avec les industries du tabac se tient, puisqu'on sait que, par exemple, les industries du tabac avaient utilisé les industries culturelles de l'époque, donc le cinéma, par exemple, pour, disons, conditionner un petit peu les comportements des spectateurs qui voyaient leurs vedettes fumer et qui, du coup, avaient envie de consommer des cigarettes. Bon. Et puis, aujourd'hui, on a un investissement aussi du champ médiatique par ces entreprises du numérique qui ont énormément de moyens, et donc, on va avoir toutes sortes de publicités diverses et variées qui se présentent pas toujours comme des publicités, mais le fait même qu'on en parle, en fait, et qu'on en parle en permanence, et qu'on parle en permanence de tel ou tel produit et pas d'un autre. Par exemple, le fait que ChatGPT a été, par exemple, au moment de son lancement, vraiment au cœur de tout les dispositifs médiatiques, un dispositif comme Mastodon, par exemple, un réseau social alternatif et décentralisé, fait beaucoup moins l'objet, en fait, des discours médiatiques. Donc forcément, de manière implicite, en fait, il y a une sorte d'influence qui s'exerce sur le grand public pour aller plutôt utiliser un dispositif dont ils entendent parler tous les jours et qui en plus est présenté. Et là encore, je rejoins ce que disait Lee Nguyen Hoang sur le cool washing, c'est-à-dire que le dispositif est présenté comme quelque chose d'absolument révolutionnaire, un petit peu magique, en fait. On entretient un rapport un petit peu magique à la technique. Ouh là là, est-ce que tout d'un coup l'intelligence artificielle aurait une conscience, pourrait comprendre ce que l'on dit, pourrait nous parler, pourrait s'adresser à nous. Oui, mais le problème, c'est qu'au moment où on pose ce type de questions, en fait, on cache d'autres questions, c'est-à-dire on cache le fait que nos expressions, nos attentions, nos émotions deviennent en fait des ressources pour des industries qui vont les capter, les revendre, etc., et en faire des sources de profit. Donc voilà, donc je pense que ce discours-là qui cherche à produire un petit effet magique autour des technologies, en fait, il n'est pas du tout innocent.
Oui, et là, d'ailleurs, ce que vous décrivez sur cette avalanche de marketing, je vois que ça fait réagir nos deux invités au plateau. Marie-Ga, vous souhaitiez rebondir?
Oui, tout à fait. C'était pour raconter deux petites anecdotes qui vont dans le sens de ce qu'on dit. Notamment Tim Kendall, qui est l'ancien directeur de la monétisation chez Facebook, qui, dans son témoignage devant la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants en 2020, a quand même lâché. Nous avons suivi l'exemple des géants du tabac. Alors, certes, il parlait notamment des stratégies en termes d'addiction par rapport aux réseaux sociaux, mais bon, on peut quand même deviner derrière cette phrase-là que ça va au-delà, quoi. C'est pas uniquement sur la question de l'addiction. Et c'était aussi pour rebondir, donc vous faisiez référence au papier effectivement très novateur sur la question de Abdallah et Abdallah. Et ben l'une des personnes qui a rédigé ce papier-là, Mohamed Abdallah, qui à l'époque était doctorant à l'université de Toronto, s'est vu conseiller notamment de ne pas insister dans ses critiques à l'égard des grandes entreprises technologiques. Donc on voit bien que le fait de financer massivement la recherche publique, évidemment, ça a des conséquences aussi en termes de censure.
Léa Nguyen Wang.
Je insister sur le fait qu'il y a un autre aspect dangereux, je pense, par rapport à ces industries, c'est qu'elles contrôlent les technologies de l'information via lesquelles beaucoup de l'information circule. Et ça, c'est très pratique quand vous voulez faire du marketing. Je prends l'exemple, par exemple, d'un documentaire qui a été fait sur Dimitri Savis, le PDG de Google DeepMind, donc une sous-partie de Google qui travaille pas mal sur les IA génératives. Ils ont fait un documentaire publié sur YouTube qui incarne exactement tout ce que disait Anne en termes de cet imaginaire de l'intelligence artificielle, notamment sur l'intelligence et tout ça. Et ce documentaire a fait 382 millions de vues, ce qui est absolument énorme. Enfin, c'est vraiment, vraiment énorme. Et on peut du coup se demander légitimement, c'est difficile de savoir encore une fois parce qu'on n'a pas les données, ils ont le monopole des données compromettantes, mais on peut se demander si YouTube n'a pas agi, qui appartient à Google, n'a pas agi pour amplifier le trial marketing de Google.
Alors ça, c'est par rapport à ce travail marketing, ce que vous êtes en train de décrire, Léa Nguyen Wang, c'est que on a quand même des technologies qui sont des technologies de l'information, et c'est aussi pour ça qu'elles sont particulièrement dangereuses, vous dites. Et qu'on peut aussi, grâce à l'IA, on parle du lobbying de l'IA, mais on peut aussi faire du lobby via l'IA.
Oui, tout à fait. C'est un énorme champ depuis un petit bout de temps. En fait, avant même les réseaux sociaux, il y avait ce qu'on appelle le search engine optimization. Donc, on peut appeler ça une manière d'essayer de pirater l'algorithme de Google pour faire en sorte qu'on apparaisse dans les premiers résultats du moteur de recherche lorsque quelqu'un fait une recherche. Depuis, les réseaux sociaux ont pris une grosse part aujourd'hui de l'attention, enfin la quasi-totalité une énorme partie de l'attention. Et du coup, l'enjeu pour beaucoup d'entreprises privées, pour même des gouvernements, des partis politiques, ainsi de suite, c'est d'être souvent recommandé par ce qu'on appelle les intelligences artificielles de recommandation, ces systèmes qui, lorsque vous ouvrez TikTok ou YouTube ou Instagram, choisissent parmi les milliards de contenus sur la plateforme quelles sont la poignée, les 5-6 premières vidéos qui sont recommandées, qui vous seront affichées. Et donc ce choix de tri énorme, c'est une décision extrêmement influente qui est prise des milliards de fois par des systèmes de ces entreprises privées.
Et puis sur ces IA de recommandation, justement, on tombe en 2018 sur les Facebook Files.
Oui, les Facebook Files, c'est vraiment un des documents les plus compromettants qui sont apparus, qui ont été révélés par une lanceuse d'alerte, Frances Haugen. Donc Frances Haugen a révélé ces documents en 2021. Et parmi les choses très intéressantes qu'il y a dans ces documents, c'est qu'on voit, c'est assez rare, c'est parce que encore une fois, elles ont le monopole des données compromettantes, donc on est obligé de passer souvent par là pour avoir des informations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un changement d'algorithme de recommandation, de l'IA de recommandation de Facebook en 2018. Et suite à ce changement d'IA, qui clairement amplifiait beaucoup plus les contenus beaucoup plus haineux parce qu'ils étaient plus engageants, on a observé des journalistes et des politiciens européens écrire à Facebook en se plaignant du changement d'algorithme, en disant à Facebook, à cause de vous, on est obligé de changer notre comportement, de changer notre production de contenu, parce que sinon, on fait moins de vues et on souffre économiquement ou politiquement.
D'être plus clivant pour être visible.
Exactement. Et c'est là que c'est très dangereux, ces IA de recommandation. Elles manipulent pas uniquement la diffusion d'informations, elles manipulent également la production de l'information. Et c'est là qu'on voit que c'est extrêmement dangereux pour les démocraties, de façon générale.
Ouais, ces IA de recommandation. Puis aussi, côté IA générative, on a deux études importantes parues dans Science et dans Nature en décembre dernier qui montrent que les conversations avec l'IA peuvent influencer les opinions politiques. Les IA conversationnelles peuvent influencer les choix de vote des électeurs, en l'occurrence américains, canadiens ou polonais. Anna Lombert, ça montre aussi, ça pose des questions quand même très profondes sur la manière dont l'IA générative peut remodeler les élections. Politiquement, c'est quand même un point fort, ça.
Oui, tout à fait. C'est un énorme problème, c'est un énorme sujet. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête ce qui s'est passé avec les IA de recommandation pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les IA de génération. Parce que vous savez aussi que OpenAI, donc l'entreprise qui produit les services ChatGPT, a annoncé récemment le passage à un modèle d'affaires publicitaire. Donc, nous allons avoir bientôt, probablement, hein, je ne fais pas de futurologie, mais j'imagine de manière assez rationnelle qu'on va avoir les mêmes logiques, si vous voulez, avec des entreprises privées qui vont payer OpenAI pour que ChatGPT, promeuve les médicaments qu'elles vendent, tous les produits en fait du quotidien, quoi. Donc quand vous allez demander vous prendre des renseignements auprès de ChatGPT, auprès de à peu près toutes vos actions du quotidien, eh bien vous aurez en fait de la publicité qui sera intégrée, mais complètement invisibilisée, quoi. Alors ça, c'est la première dimension, disons, hein, les enjeux de ciblage publicitaire. Et puis ensuite, il y a bien sûr ensuite les enjeux de ciblage politique et de propagande parfois. Donc on sait déjà que un certain nombre de ces IA génératives sont elles-mêmes manipulées, donc par des sites de désinformation russes par exemple, hein, qui ont manipulé un certain nombre de services IA génératives, qui allaient chercher leurs données sur ces sites. Et puis par ailleurs, elles sont elles-mêmes des puissances de manipulation, évidemment, puisque ce ne sont pas des outils neutres, hein, pas du tout. Si vous posez une question à Grok ou si vous posez une question à ChatGPT, vous n'aurez pas nécessairement la même réponse, et vous n'aurez pas la même réponse parce que ces IA sont entraînées, encore une fois, par des entreprises privées, sans que nous ayons la visibilité sur les critères d'entraînement et donc sur les logiques algorithmiques qui sont derrière, hein, puisque ce sont des données qui ne sont pas partagées pour le grand public et pour la recherche publique. Mmh. Et donc, ça pose toutes sortes de questions en termes de manipulation des opinions.
Et puis, il existe aussi un risque que les acteurs politiques deviennent eux-mêmes dépendants de l'IA spécifiquement pour leur réélection, par exemple, où on peut se penser qu'un responsable politique ne puisse pas s'opposer à ce lobbying, finalement, de peur de s'exposer à être invisibilisé, voire dénigré publiquement. Nguyen Hong, vous souhaitiez également rebondir les propos de Anna Lombert.
Oui, je vais juste rajouter un autre aspect de la manipulation par les intelligences artificielles génératives, c'est ce qu'on appelle parfois l'astroturfing. Donc l'astroturfing, l'idée, c'est de créer des faux comptes factices qui vont donner l'impression de popularité de telle ou telle idée. Et ça on l'a vu à de très nombreuses reprises. Le cas le plus frappant, c'est celui qui a eu lieu en Roumanie, où toutes sortes d'activités factices avaient été mises en place à la veille des élections présidentielles en 2025 et qui ont conduit à une montée en popularité spectaculaire d'un candidat jusque-là inconnu, et qui a conduit même à l'annulation de ces élections parce que ces comptes étaient suspectés d'être de l'ingérence russe. Donc là on peut vraiment se poser la question de la vulnérabilité également des présidentielles ou même des élections à venir vis-à-vis de ces coordinations de faux comptes.
Comment le monde de la tech maintient-elle la pression sur les milieux académiques? Les géants du numérique ont aussi envahi le monde universitaire, y compris en France, notamment par les partenariats public-privé. Restez avec nous, on y arrive.
Get-go. So what if it's only 1 o'clock in the afternoon? It's never too late. captain of the football team, but I turned him out. He wasn't the first and he won't be the last to tone it down. This happens all the time. I'm the story they tell the alibi.
Bad Influence de Pink, on direct sur France Culture, car nous parlons du lobbying de l'IA avec nos trois invités du jour. Lee Nguyen Hoang, docteur en mathématiques, créateur de la chaîne YouTube Science for All et spécialiste de l'IA. Marie Garin, chercheuse postdoctorale CNRS au Centre Internet et Société. Et Anna Lombert, maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8. On vient de voir que d'année en année, le monde de la tech prend de plus en plus de place dans le jeu politique du lobbyisme. Son influence s'étend aujourd'hui également du côté de la recherche scientifiques et du personnel universitaire. Alors, on a dit, on a beaucoup parlé de l'enthousiasme très débridé en faveur de la tech, avec toute une galaxie d'influenceurs. Lee Nguyen Hoang, on entend aussi, on a parlé des marchands de doute, mais on a aussi les marchands de peur. Le lobbying de l'IA présente aussi un fil rouge, son appétence à manipuler la peur, avec souvent cet argument de l'apocalypse IA qui serait proche de nous.
Oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui est devenu extrêmement influent. Aujourd'hui, on a des prix Turing, notamment. Je pense à Yoshua Bengio et à Geoffrey Hinton, qui ont également ce discours. Je ne vais pas me permettre de critiquer ouvertement des prix Turing sur la validité scientifique de ces, parce que peut-être que ils considèrent que ces préoccupations sont importantes, donc elles ont sans doute un intérêt. Mais ce que je constate, c'est qu'en donnant trop d'attention à cet aspect, au côté notamment super intelligence, on oublie que aujourd'hui nos démocraties sont menacées par des technologies d'intelligence artificielle déjà largement déployées. On a également des problèmes de santé mentale extrêmement graves, notamment d'attachement émotionnel aux chatbots, avec des cas qui ont poussé au suicide, ou par exemple avec TikTok ou Instagram, également des problèmes de santé mentale très graves. Et j'ai surtout la crainte qu'en donnant beaucoup d'attention à ces sujets un peu long-termistes, on omet que nos sociétés sont déjà gravement menacées par ces technologies.
Finalement, agiter le drapeau, attention, l'apocalypse y approche, un peu faire de la diversion des problèmes concrets actuels. C'est aussi le regard que vous portez sur ce discours-là, Anna Lombert.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je crains qu'en se concentrant sur ces questions de futur, on oublie un peu les problèmes du présent, et puis surtout qu'on risque de se concentrer, voilà, sur des aspects très généraux, l'humanité, son extinction, ou bien la super intelligence, etc. Et en fait, de dépolitiser un petit peu la question. Donc, on n'entend plus parler de concentration économique, on n'entend plus parler de prolétarisation généralisée, on n'entend plus parler non plus d'enjeux écologiques dans ces discours. Et pour moi, c'est évidemment très problématique, parce que ces trois questions-là, la concentration des capitaux et des entreprises, la prolétarisation des individus, des utilisateurs, c'est-à-dire la perte de leur capacité cognitive, de leurs relations sociales, etc. Et puis les questions écologiques, évidemment, environnementales, donc le coût énergétique de ces systèmes sont des questions qui sont absolument non négligeables. Donc c'est vrai que ce type de discours-là laisse aussi penser, si vous voulez, qu'il y a une sorte de linéarité dans le devenir de ces technologies. Donc nécessairement, l'IA devrait conduire à ces systèmes très généraux, ces agents conversationnels super intelligents qui seraient capables de faire toutes sortes de tâches. Et donc, en fait, ça nous masque aussi des alternatives technologiques et industrielles possibles. Par exemple, des plus petits modèles d'IA qui pourraient être performants sur certaines tâches spécifiques et beaucoup moins coûteux d'un point de vue environnemental, ou bien des plateformes contributives, collaboratives. Vous voyez des alternatives, en fait, qui se développent selon des idéologies politiques, selon des modèles économiques et selon des fonctionnalités technologiques différentes. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, j'appelle ça la technodiversité, d'ouvrir nos imaginaires technologiques et de ne pas se laisser enfermer dans ces espèces de grands récits linéaires qui, en plus, ne correspondent pas, si vous voulez, aux trajectoires industrielles telles qu'on peut les étudier dans le champ de l'histoire des techniques ou de la politique technologique, etc.
Et puis, en effet, ces propos alarmistes sont tenus par les grands noms de la big tech eux-mêmes, et comme vous dites, c'est une façon aussi de s'assurer une situation d'oligopole. Alors maintenant, on arrive à la question également de la régulation avec notre reportage du jour. Si le lobbying pose problème d'une manière générale, c'est notamment pour son influence sur la législation. Alors pour notre reportage, nous nous sommes intéressés à l'encadrement judiciaire qui entoure ces outils alimentés par intelligence artificielle et plus particulièrement à la manière dont on peut encadrer des chatbots d'un genre nouveau, les IA compagnons. Et on en parle avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha. Ces IA compagnons prennent essentiellement la forme d'agents conversationnels et ils ont pour objectif de tisser des liens avec l'utilisateur. Cela peut être une amitié, une compagnie, voire même une relation encore plus intime. Alors il y a un certain nombre de chatbots qui sont spécialisés dans le domaine, mais on remarque aussi que certains agents conversationnels généralistes, comme ChatGPT, ont tendance à fonctionner de manière similaire. Et derrière, les effets peuvent être délétères. Ce genre de lien favorise par exemple la divulgation de données sensibles, mais les discussions peuvent même dériver jusqu'à l'incitation au suicide. D'où la nécessité d'un encadrement législatif. Pour en parler, je me suis rendu à l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, où la professeure de droit Célia Zolinski co-dirige le département de droit de l'immatériel. Notre discussion portait sur un article qu'elle a co-écrit, apparaître dans un ouvrage collectif et intitulé « L'économie de l'attention à l'ère de l'IA ».
On a différents éléments qui sont déjà existants en droit, notamment le règlement intelligence artificielle de 2024 qui impose que dès lors que l'on propose à l'utilisateur d'interagir avec un agent conversationnel, donc par exemple un IA compagnon, il faudra informer l'utilisateur qu'il interagit avec une machine et non pas un humain. Donc c'est une obligation de transparence pour éviter des risques de manipulation. Mais cela ne va pas être toujours suffisant puisqu'il y a potentiellement ce qu'on appelle un effet ELISA, c'est-à-dire un risque d'anthropomorphisation, de projeter des qualités humaines sur la machine, quand bien même on sait, on a connaissance, on est informé du fait qu'on interagit avec une machine. Il y a une autre disposition du règlement intelligence artificielle qu'on pourrait invoquer, qui est son article 5, qui pose des interdictions de certains usages des systèmes d'intelligence artificielle parce qu'ils portent trop atteinte à des droits fondamentaux ou à la sécurité de l'utilisateur.
Est-ce que vous avez des exemples, justement, de choses qui sont interdites ?
Dans les exemples pertinents ici, dans le contexte des IA compagnons, il y a notamment, dans l'article 5, l'interdiction d'utiliser des systèmes qui viendraient porter un préjudice substantiel à l'utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs en agissant par exemple sur sa vulnérabilité. Et là, on a engagé désormais une discussion pour savoir si cette disposition pourrait conduire à interdire certains usages des IA compagnons.
Cette question de l'interdiction arrive dans un contexte où des situations dramatiques se sont déjà produites. Le 28 février 2024, Swell Setzer, un adolescent de 14 ans, se tire une balle dans la tête à la suite d'un échange avec Danny sur le chatbot caractère AI. Danny était un agent personnalisé pour ressembler à Daenerys Targaryen de la série Game of Thrones, avec qui l'adolescent entretenait une relation depuis plus d'un an. L'année suivante, Adam Rain, un adolescent de 16 ans, se pend dans sa chambre après de longues discussions avec ChatGPT. Des discussions durant lesquelles l'agent conversationnel lui a notamment donné des conseils pour mettre fin à ses jours.
L'idée de cette interdiction, ça serait de se prémunir contre ce genre de préjudice. L'idée, c'est d'intervenir en amont pour éviter ces cas dramatiques, donc ici de suicide de jeunes adolescents. Et d'ailleurs, il est intéressant, dans l'article 5 que je vous évoquais du règlement intelligence artificielle, la disposition est très générale, et la Commission européenne a publié un texte intéressant en février 2025 qui vient éclairer la lecture que l'on doit faire de l'article 5. Dans ce document, la Commission relève que des systèmes d'IA compagnons pourraient être préjudiciables en particulier pour des mineurs, du fait d'une construction sociale progressive, du fait de leur développement cognitif, qui pourrait être préjudiciable aussi pour des personnes qui souffrent de certaines vulnérabilités, ce qui était le cas, par exemple, du jeune Swell. Et la Commission européenne cite ces exemples, mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que l'article 5 pose des conditions qui sont assez strictes, et donc il n'est pas évident aujourd'hui qu'il s'applique. On est en train de travailler à réfléchir à une applicabilité plus franche et il nous faut donc évaluer la réalité du risque potentiel que comportent des interactions avec ce type de service.
Mais malgré tout ce qu'on pourrait développer en droit, bon, à moins de tout interdire, mais a priori ce ne sera pas le cas, vous concluez votre article en disant que les réponses que peuvent apporter le droit, elles seront toujours en partie limitée. Donc il y a aussi d'autres réponses à apporter, notamment des réponses d'ordre culturel et technique.
Le droit va être nécessaire à mobiliser pour imposer des obligations aux fournisseurs de ces services. Des interdictions, parfois, si on voit que les risques sont inacceptables, des obligations en termes, par exemple, de mettre en œuvre des mesures de ce qu'on appelle AI safety, donc de sécurité, notamment de ne pas prolonger une conversation si elle s'engage sur de l'incitation au suicide, sur de l'incitation à développer des troubles du comportement alimentaire ou de consommer des substances illicites. Et à ce titre, je voulais vous citer un intéressant document publié par une ONG qui s'appelle le Center for Counterfeit Digital AIDS, qui s'appelle Fake Friends, et qui, à partir de création de faux comptes d'adolescents, montrait comment cette version de ChatGPT pouvait conduire à encourager ces faux profils adolescents type vers des pratiques problématiques comme de l'alcoolisme ou des troubles du comportement alimentaire. On va donc ici réfléchir à comment être certain que les opérateurs mettent bien en œuvre ces mesures de sécurité, mais il est certain que le droit ne sera pas suffisant. Et à ce titre, il est essentiel que les utilisateurs comprennent le fonctionnement de ces systèmes et que l'on déploie des formations, que l'on montre l'impact de ces systèmes potentiellement. Néanmoins, il y a un point qui est déterminant, c'est également de comprendre qu'il y a d'autres modèles d'intelligence artificielle que l'on pourrait promouvoir, à savoir des modèles qui permettraient de favoriser une construction collaborative bénéfique aux intérêts de l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, on travaille à promouvoir ces modèles alternatifs qui ne conduiraient pas à générer des effets délétères de l'économie de l'attention qu'on peut aujourd'hui observer s'agissant des réseaux sociaux, tant sur le plan individuel pour les utilisateurs. On en discute beaucoup en ce moment sur l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, que sur le plan collectif. Et on discute aussi beaucoup en ce moment des effets de polarisation de l'opinion publique de par l'usage de certains réseaux ou médias sociaux.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir les sciences en train de se fabriquer au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo et c'est à retrouver sur le site franceculture.fr. Une réaction à l'écoute de ce reportage, Anna Lombert?
Oui, bah écoutez, plusieurs réactions. En fait, effectivement, il y a un certain nombre, vous voyez, on est en train de passer d'une économie de l'attention qui était à l'œuvre sur les réseaux sociaux à une économie de l'attachement qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle des compagnons IA ou des agents conversationnels ou des compagnons virtuels, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui vont manipuler en quelque sorte nos émotions, nos attachements, nos affects et conduire certaines personnes à s'attacher en fait à ces services, ce qui est le rêve de toute entreprise privée, hein, que vous tombiez amoureux de son produit, c'est parfait pour augmenter les profits. Donc je crois effectivement, comme le rappelait très justement Célia Zolinski, qu'il y a des leviers juridiques, et elle faisait référence au règlement sur les services numériques, au DSA, au règlement européen sur les services numériques, qui posait aussi la question des dark patterns. Donc vous savez, ce sont ces interfaces trompeuses, manipulatoires, qui ont pour fonction en fait d'influencer les comportements des usagers. Et on pourrait considérer effectivement que dans ces IA génératives, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont cette fonction-là aussi. Par exemple, le fait qu'elles utilisent la première personne du singulier, donc que ChatGPT parle avec le « je », bah, en fait, ça va vous inciter à anthropomorphiser la machine, parce que vous êtes habitué à, quand quelqu'un emploie le « je », vous êtes habitué à vous dire qu'il y a de la réflexivité, il y a une intériorité, etc. Donc, vous allez automatiquement, si je puis dire, hein, dans une sorte de comportement réflexe, un petit peu anthropomorphiser le dispositif, même si, en fait, vous savez qu'il n'y a que des algorithmes derrière. Bon. Ensuite, vous avez des dispositifs qui vont vous relancer en permanence, vous demander si vous n'avez pas une nouvelle question à poser, qui vont aussi vous flatter. C'est ce qu'on appelle la flagornerie, le fait que les utilisateurs ont toujours des questions formidables, originales, oui, géniales. Et donc ça, évidemment, bah, ça exploite un petit peu nos besoins, encore une fois, de reconnaissance sociale et puis nos failles narcissiques, parce que évidemment, il y a certaines personnes qui sont vulnérables, mais en réalité, quand il s'agit de psychologie, nous sommes tous très vulnérables, j'ai envie de dire. Donc, toutes ces techniques-là, elles devraient, à mon avis, faire l'objet de discussions publiques. On devrait se demander, bon, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'obligations en termes de design pour ces nouveaux services, ouais. Parce que évidemment tout cela va transformer complètement aussi nos comportements sociaux, hein, et va influencer en fait sur nos manières de nous relier collectivement. On parlait de démocratie tout à l'heure. Pour qu'il y ait démocratie, il faut d'abord la possibilité de faire société. Et aujourd'hui, c'est cette possibilité même en fait qui est menacée. Et
je me tourne de nouveau vers Lee Nguyen Hoang. Je vois que les propos de Anna Lombert vous faisaient réagir avec aussi cette question en effet en creux de la régulation.
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. J'aurais juste rajouté un autre aspect, c'est que ce qui est un peu frappant dans le reportage, c'est qu'on court derrière les intelligences artificielles après qu'elles soient déployées. Et ça contraste avec toutes les autres industries, dans n'importe quelle industrie, dans l'agroalimentaire, l'aviation, l'automobile... à peu près toutes les industries, de base, un produit n'a pas le droit d'être commercialisé. Il doit prouver sa conformité avec la loi pour obtenir le droit de commercialisation. Et c'est encore plus le cas quand on entre dans le domaine médical. Et donc, c'est particulièrement frappant de voir, par exemple, OpenAI annoncer une version ChatGPT santé. Là, on sait que les produits de santé, d'habitude, ils sont obligés de passer par une case preuve de conformité avec la loi pour obtenir le droit de commercialisation. J'aimerais juste signaler le fait qu'au Sénat, il y a une proposition de loi qui est en train d'être votée sur la présomption de l'utilisation des droits d'auteur, enfin de la violation des droits d'auteur par les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'elle supposerait qu'une intelligence artificielle générative, de base, a violé des droits d'auteur, et c'est ensuite à l'entreprise de prouver qu'elle n'a pas violé ses droits d'auteur pour obtenir un droit de commercialisation.
Mais alors comment les big tech sont-elles parvenues à avoir une influence aussi forte sur la régulation de leur propre marché, Maria ?
Eh bien, je pense que pour questionner cela, c'est assez intéressant de regarder l'influence des big tech sur le champ de l'IA éthique. Moi, je me suis pas mal intéressée à ça pendant ma thèse. En fait, ce qui est intéressant de voir, et ça nous mène aussi à une des différences majeures, peut-être, entre les techniques des industries un peu classiques et les techniques en termes de production de l'ignorance du côté des big tech, c'est le fait que, cette fois-ci, la recherche est réalisée directement par des chercheurs de ces entreprises-là. Et l'ampleur de cette recherche, elle est vraiment telle qu'elle éclipse les universités les mieux financées. Si on prend par exemple l'année 2022, l'ensemble des universités américaines ont dépensé autour de 100 milliards de dollars. Et la même année, si on regarde les dépenses cumulées de Amazon, Google, Meta, Apple et Microsoft, eh ben on arrive au double, à plus de 200 milliards de dollars. Et ce financement et cette production de la recherche, elle se fait particulièrement dans le champ de l'IA éthique. Mmh. Et on peut se questionner sur pourquoi est-ce qu'il y a un tel investissement de ce champ-là par les big tech.
Ah, mais justement,
ouais. Une des réponses de pourquoi est-ce qu'ils investissent autant ce champ-là, c'est bien parce que ça leur permet d'apporter une certaine problématisation des nombreuses critiques politiques des usages et des dispositifs d'intelligence artificielle. Que ce soit par exemple les partenariats militaires, que ce soit Palantir, dont les outils sont utilisés par la police de l'immigration, que ce soit dans les nombreuses discriminations qui là vont être cadrées par le terme de biais. Et donc ça permet à ces big tech avec une problématisation de ces critiques autour d'une sémantique d'ajustement technique, de dire on a la solution et vous pouvez nous faire confiance, on va s'auto-réguler, donc pas besoin de nous réguler.
Et puis la tech maintient aussi la pression sur les milieux académiques, aussi en grande partie grâce aux salaires, les salaires monstrueux qu'on peut voir, les Nguyen Hoang.
Oui, tout à fait, les salaires vont facilement 5 fois plus grands dans l'industrie de la tech, voire plus. Marie a l'air de dire plus. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, un fossé énorme. Et du coup, ça pose des questions, même pour les gens qui n'ont pas encore de conflit d'intérêt, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille souvent en recherche avec des jeunes doctorants. Et les jeunes doctorants, on ne veut pas leur fermer la porte potentiellement à des... Et du coup, même si on n'a pas de conflit d'intérêt en tant que tel, comme on veut quand même protéger l'avenir des doctorants, il y a forcément des précautions que l'on prend pour ne pas se mettre potentiellement des industriels à dos. Et de surcroît, j'ajouterais que dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a un manque de sensibilité à ces enjeux. Il y a un manque d'attention aux conflits d'intérêts. Par exemple, il y a une étude récente qui montrait que un tiers des articles de recherche publiés dans le domaine des études des réseaux sociaux ont des conflits d'intérêts non déclarés. Et du coup, ce manque d'attention est également très, très problématique.
Eh bien, merci en tout cas pour cette conclusion et pour de porter de votre attention sur ce problème-là. Merci à vous trois, parce que tout de suite, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique d'Alexandra Delbo. C'est le moment de retrouver la chronique avec science. Merci.
Pourquoi Io est-elle si différente de sa cousine Europe? Ce sont deux des plus de 80 satellites naturels de Jupiter et elles ont des points communs. Elles font la même taille, 1800 km de rayon pour Io, 1600 pour Europe, des dimensions d'ailleurs assez proches de notre propre Lune. Elles sont aussi voisines, elles orbitent très proches l'une de l'autre, mais les ressemblances s'arrêtent ici parce que Io est la Lune la plus volcanique de notre système solaire, alors qu'Europe est un monde d'eau. Yanis Benacer est doctorant au laboratoire d'astrophysique de Marseille et à l'Institut Origine du CNRS.
C'est dû en majeure partie avec ces effets de marée qui sont très intenses. Plus on se rapproche de Jupiter, plus les effets de marée sont intenses. Et donc Io est déformé périodiquement à chaque orbite. Et donc par friction, en fait, Io va s'échauffer et on pourra atteindre des températures supérieures à 1000 degrés, avoir des éruptions volcaniques, du magma qui ressemble essentiellement à ce qu'on a sur Terre. Et donc on n'a pas d'équivalent dans le système solaire. On a pu mesurer la densité de Io, donc sa masse et son rayon. Et sa densité, en fait, elle est de 3500 kg par mètre cube. Donc c'est une densité qui se rapproche des roches, qui ne nous suggère pas d'eau. Puis en fait, on n'observe pas d'eau. On n'observe pas d'eau dans son atmosphère. On n'observe pas d'eau en surface, pas de signature spectroscopique. Comparé à Europe, pour le coup, qui est donc une lune un peu plus distante, donc cette fois-ci, les effets de marée vont être un peu moins intenses. Donc sur Europe, on a une couche de glace, donc c'est une lune qui est composée de beaucoup d'eau, 10% en masse d'eau, comparé à toute sa masse. Je rappelle que sur Terre, c'est environ 0,1%, donc on a beaucoup d'eau sur Europe, une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres, suivi d'un océan souterrain qui pourrait atteindre 100 km de profondeur selon les modèles actuels.
Europe contiendrait l'équivalent de deux fois le volume des océans terrestres. Elle est donc extrêmement riche en eau, alors qu'Io en est quasiment dépourvue. Comment expliquer une telle différence? Io a-t-elle perdu son eau au cours de son histoire ou en avait-elle simplement moins dès sa naissance? Ces deux hypothèses s'affrontent depuis des décennies et c'est ce débat que vient éclairer une nouvelle étude parue dans The Astrophysical Journal. Pour trancher, il faut passer par des modèles. Ces modèles numérique très complet intègre les effets de marée, la température, la composition en eau, la formation et la migration des lunes. Les scientifiques ont donc testé de nombreux scénarios pour tenter de reproduire Io tel que l'on observe maintenant. Ils ont d'abord construit une Io riche en eau, semblable à Europe, née au même endroit, et puis ils ont cherché à la dessécher dans ces simulations. Résultat, eh bien ça ne marche pas. Impossible de faire perdre suffisamment d'eau à Io, ce qui veut dire qu'elle était différente dès sa naissance.
On s'est rendu compte très vite que c'était pas possible. Et c'est vrai que en créant le modèle, on s'attendait pas à avoir cette difficulté notable pour Io de perdre une hydrosphère. Ce qu'on suggère ici, c'est que Io se serait formé dans une zone très proche de Jupiter, en tout cas une zone peut-être à son orbite actuelle, ou alors un petit peu plus loin, mais une zone qui serait très chaude comparée à Europe, qui se serait formée dans une zone un peu plus froide, en tout cas assez froide pour que les minéraux ne se déshydratent pas et qu'on puisse former l'océan d'Europe avec ces minéraux hydratés. Comme elles sont dans des zones différentes, elles ont accrété de la matière de manière différente, elles ont accrété la composition qui était autour d'elles à leur orbite finalement. Donc finalement, elles ont été différentes dès leur naissance en se formant dans des zones différentes du disque.
Le destin d'Io semble donc s'être joué dès sa naissance. En se formant plus près de Jupiter, elle a incorporé bien moins d'eau que sa cousine et son évolution ultérieure n'a fait qu'accentuer cette différence. Dans cette étude, l'eau a été modélisée sous forme de minéraux hydratés et non pas directement de glace d'eau. C'est assez subtil, mais cela signifie qu'il y a une suite à ce travail avec d'autres modèles pour confirmer ce qui a été pointé ici. Mais qui dit meilleure simulation dit nouvelles données, et c'est tout l'enjeu de l'exploration de ces lunes. Deux sondes spatiales sont actuellement en route, Europa Clipper de la NASA et JUICE de l'Agence spatiale européenne. Elles analyseront les signatures spectrales de ces composés sur Io et Europe afin de mieux comprendre l'origine de l'eau dans le système jovien, mais il faudra être encore un petit peu patient. Elles ont du chemin à parcourir. Europa Clipper arrivera en l'an 2030 et JUICE l'année suivante.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lauzel, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Louise Ormond-Séji. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.